Chapitre 4. Au palais Doria, comme on causait de choses et d'autres, la vieille duchesse Angelieri dit à propos des couches récentes de Loremiano. Il paraît que Lore et Hélène Mout y sont brouillées. À cause de Georges, peut-être, demanda une autre dame en riant. On le dit, c'est une histoire qui a commencé cet été à Lucerne. Mais Lore n'était pas à Lucerne. Précisément, mais son mari s'y trouvait. C'est, je crois, une méchanceté, rien de plus, interrompit la comtesse Florentine Blanche d'Occebuono. Georges est maintenant à Paris. André avait entendu, malgré le bavardage, d'Eugénie Starnine, qui, assise à sa droite, l'occupait sans trêve. Les paroles de Blanche d'Occebuono ne suffisaient pas pour adoucir la piqûre aiguë. Il aurait voulu, du moins, savoir la chose à fond. Mais la duchesse Angelieri renonçait à continuer et d'autres conversations s'entrecroisaient parmi les grandes roses triomphantes de la Villa Pamphili. Quel était ce Georges? Peut-être le dernier amant d'Hélène? Elle avait passé à Lucerne une partie de l'été. Elle venait de Paris. Au sortir de la vente, elle avait refusé d'aller chez Loremiano. Dans l'esprit d'André, les apparences étaient contre elle, toutes. Un désir atroce l'envahit de la revoir, de lui parler. L'invitation au palais Farnèse était pour 10 heures. À 10h30, il s'y trouvait déjà dans l'attente. Il attendit longtemps. Les salons s'emplissaient avec rapidité. Le bal commençait. Dans la galerie d'Animal Carache, les déesses romaines rivalisaient de beauté avec les Arianes, avec les Galatées, avec les Aurores, avec les Dianes des fresques. Les couples tourbillonnaient en exhalant des parfums. Les mains gantées des dames pressaient l'épaule des cavaliers. Les têtes constellées de pierreries s'inclinaient ou se dressaient. Il y avait des bouches entr'ouvertes qui brillaient comme la pourpre, des épaules nues qui luisaient sous un voile de moteur éparse, des seins qui semblaient rompre le corsage par la violence du halètement. « Vous ne dansez point, Sperelli ?» demanda Gabrielle Barbarise, une jeune fille brune comme l'olive aspéciose, tandis qu'elle passait au bras d'un cavalier en faisant palpiter de la main son éventail et du sourire, un signe qu'elle avait dans une fossette du coin de la bouche. « Plus tard, » répondit André, « plus tard. » Insoucieux des présentations et des saluts, il sentait croître son tourment dans cette attente inutile. Et il circulait de salle en salle au hasard. Le « peut-être » lui faisait craindre qu'Hélène ne vînt pas. Et si réellement elle ne venait pas, quand la reverrait-il? Blanche d'Occebuono passait. Et sans savoir pourquoi, il se mit à son côté, lui disant 1000 choses aimables. Cette compagnie lui donnait un peu de soulagement. Il aurait voulu lui parler d'Hélène, l'interroger, se rassurer. L'orchestre attaqua une mazurka très langoureuse, et la comtesse Florentine entra dans la danse avec son cavalier. Alors André se dirigea vers un groupe de jeunes gens qui étaient près d'une porte. Là se trouvaient Ludovic Barbarisi et le duc de Beffi avec Philippe Del Gallo et Gino Buonminaco. Ils regardaient tourner les couples en échangeant des médisances un peu grossières. Barbarisi racontait que, dansant une valse avec la comtesse de Luccoli, il avait vu les 2 rondeurs de sa poitrine. Mais comment ? Essaie, il suffit de plonger les regards dans le corsage. Je t'assure que cela en vaut la peine. « Avez-vous remarqué, Madame Chrysoloras? Regardez donc !» Le duc de Beffi montrait une danseuse qui, pareille à une prêtresse d'Alma Tadema, avait un flamboiement de cheveux roux sur un front blanc comme un marbre de Louni. Son corsage était attaché aux épaules par un simple ruban. Buonminaco se mit à disserter sur l'odeur singulière qu'ont les femmes rousses. « Cette odeur-là, tu la connais bien, » dit Barbarisi avec malice. « Pourquoi ?»« La Michigliano !» Le jeune homme fut manifestement flatté d'entendre nommer une de ses maîtresses. Au lieu de protester, il rit. Puis, s'adressant à Sperelli, « Qu'as-tu ce soir? Tout à l'heure, ta cousine te cherchait. Elle danse maintenant avec mon frère. La voici. » Regarde, s'écria Philippe Delgado. L'Albonico est revenu. Elle danse avec Jean. Hélène Mouti est revenue aussi depuis une semaine, fit Ludovic. La belle créature. Elle est ici? Je ne l'ai pas vue encore. André eut au cœur un sursaut. Il redoutait qu'une de ses bouches ne proférât contre Hélène quelque malignité. Mais le passage de la princesse Issé au bras du ministre de Danemark fit dévier la conversation. Néanmoins, pour savoir, pour découvrir, il se sentait poussé par une curiosité téméraire à ramener le discours sur le nom de l'aimé. Mais il n'osa pas. La mazurka finissait, le groupe se dispersait. Elle ne vient pas! Elle ne vient pas! Son inquiétude secrète grandissait si cruellement qu'il eut envie d'abandonner les salons. Le contact de cette foule lui était intolérable. En se retournant, il fit apparaître sur le seuil de la galerie la duchesse de Skerny au bras de l'ambassadeur de France. Un instant, leurs regards se rencontrèrent. Et pendant cet instant, leurs yeux parurent s'attirer, se pénétrer, se boire. Tous deux sentirent qu'ils se cherchaient l'un l'autre. À un certain moment, tous deux sentirent, au milieu du bruit, descendre sur leur âme un silence et un abîme s'ouvrir où tout le monde environnant disparut sous la violence d'une pensée unique. Elle s'avançait dans la galerie peinte par le Carrache où la presse était moindre. Et sa longue traîne de brocart blanc la suivait sur le plancher comme une onde lourde. Ainsi, blanche et simple, elle passait en tournant la tête pour répondre aux nombreux saluts, avec un air de fatigue manifeste, avec un sourire un peu forcé qui lui fronçait les angles de la bouche, tandis que ses yeux semblaient plus grands sous le front exsangue. Cette pâleur extrême donnait, non pas au front seulement, mais à toutes les lignes du visage, une ténuité d'apparition lunaire. Ce n'était plus ni la femme assise à la table des athlètes, ni celle de l'hôtel des ventes, ni celle arrêtée un instant sur le trottoir de la rue Sixine. À cette heure, sa beauté avait une expression d'idéalité souveraine qui paraissait plus splendide au milieu des autres femmes échauffées par la danse, excitée, trop remuante, un peu convulsée. Des hommes la regardaient et restaient pensifs. Même dans les esprits les plus obtus et les plus vides, elle mettait un trouble, une inquiétude, une indéfinissable aspiration. Quiconque avait le cœur libre imaginait avec un frémissement profond l'amour de cette femme. Quiconque avait une maîtresse éprouvait un regret obscur en rêvant dans son cœur mal satisfait une jouissance inconnue. Quiconque portait en soi, ouverte par une autre femme, la plaie d'une jalousie ou d'une tromperie, sentait bien qu'il pourrait guérir. Elle s'avançait parmi les hommages, enveloppée par le regard des hommes. Au bout de la galerie, elle rejoignit un groupe de dames qui parlaient avec animation en agitant leurs éventails sous la fresque de Persée et de Finet pétrifiés. Il y avait la princesse de Ferentino, Hortense Massa d'Albe, la marquise d'Aditosenghi, Blanche Dolcebuono. « Pourquoi si tard ?» lui demanda cette dernière. « J'ai beaucoup hésité avant de venir. Je ne me sens pas bien. »« En effet, tu es pâle. »« Je crois que je vais avoir encore ma névralgie faciale comme l'an passé. »« Dieu t'en préserve. »« Regarde Madame de la Boissière, Hélène !» dit Giovanella Dadi de son étrange voix rauque. « Ne dirait-on pas un dromadaire habillé en cardinal avec une perruque jaune ?» Les dames se mirent à rire en chœur dans la palpitation des éventails. Des salles voisines arrivaient les premières notes d'une valse hongroise. Les cavaliers se présentèrent. André put enfin offrir le bras à Hélène et l'emmener avec lui. « J'ai cru que la tante me ferait mourir. » Si vous n'étiez pas venue, Hélène, je serais allée vous chercher n'importe où. Lorsque je vous ai vu entrer, j'ai eu peine à retenir un cri. C'est le second soir que je vous vois, mais il me semble déjà que je vous aime depuis une éternité. Penser à vous seule, toujours, c'est maintenant la vie de ma vie. » Il proférait ces paroles d'amour à voix basse, sans la regarder, les yeux fixés devant lui. Et elle l'écoutait dans la même attitude, impassible en apparence, presque marmoréenne. Il restait peu de monde dans la galerie. Le long des murs, entre les bustes des Césars, les cristaux dépolis des lampes en forme de lys versaient une lumière égale, sans excès. La profusion des plantes vertes et fleuries donnait l'image d'une serre somptueuse. Les ondes de la musique se propageaient dans l'air chaud, sous les voûtes sonores, glissant sur toute cette mythologie comme une brise sur un fastueux jardin. « M'aimerez-vous » demanda-t-il. « Dites-moi que vous m'aimerez. » Elle répondit avec lenteur. « Je ne suis venue que pour vous. »« Dites-moi que vous m'aimerez, » répéta-t-il, tandis que tout le sang de ses veines affluait à son cœur comme un torrent de joie. Elle répondit « Peut-être !» Et elle le regarda de ce même regard qui, le soir précédent, lui avait semblé une divine promesse, de cet indéfinissable regard qui donnait à la chair comme la sensation d'un attouchement tendre et velouté. Puis ils se turent tous les deux, et ils écoutèrent l'enveloppante musique de la danse qui, tour à tour, se faisait lente comme un murmure ou s'emportait comme un tourbillon soudain. « Voulez-vous que nous dansions ?» demanda-t-il avec un frisson intérieur à la pensée de l'enlacer dans ses bras. Elle hésita un peu, puis elle répondit « Non, je ne veux pas !» Et comme elle voyait entrer la duchesse de Bougnard, sa tante maternelle, entrer dans la galerie avec la princesse Alberoni et l'ambassadrice de France, « Maintenant, soyez prudent, » ajouta-t-elle, « laissez-moi !» Elle lui tendit sa main gantée et alla rejoindre les trois dames, seules, d'un pas rythmique et léger. Sa longue traîne blanche donnait à sa personne et à sa démarche une grâce souveraine, et l'ampleur, la pesanteur du brocart, contrastaient avec la finesse de sa ceinture. André, la suivant des yeux, se répétait mentalement la phrase qu'elle avait dite « Je ne suis venue que pour vous ». Si belle, elle n'était venue que pour lui, pour lui seul. Soudain, du fond du cœur, il lui remonta un reste de l'amertume qui avait mise le propos de la duchesse Angélière. L'orchestre se lançait impétueusement dans une reprise, et jamais il n'oublia ni cette musique, ni cette subite angoisse, ni l'attitude de cette femme, ni la splendeur de l'étoffe traînée, ni le moindre pli, ni la plus petite ombre, ni aucune particularité de cette minute suprême.